Écoutez, on va encore prier, ensuite ouvrir nos Bibles à 1 Timothée 2. Prions. Seigneur, merci de tout cœur. Merci pour ces beaux chants. Merci Seigneur, parce que bien qu'il y ait une crise autour de nous aujourd'hui, Seigneur, en Christ, nous pouvons t'adorer, nous pouvons te louer, te chanter, te remercier. Seigneur, te bénir, parce que même dans la difficulté, Seigneur, toi, tu ne changes jamais. Tu es bon, Seigneur, tu es juste, tu es droit. Et tu nous bénis, tu nous combles de bénédictions, Seigneur. Merci. Merci pour cette lumière qui brille au milieu des ténèbres, Seigneur. Et nous aimons ta parole. Seigneur, ta parole est vérité. Et nous voulons la sonder aujourd'hui et nous te demandons de nous conduire. Seigneur, moi qui la portera, mais à tous ceux et celles qui l'écouteront, Seigneur, que nous puissions avoir la pensée de Christ. Et je te remercie maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui, nous abordons le troisième message et le dernier message dans une série tirée de 1 Timothée chapitre 2, les versets 9 à 15, une série que j'ai intitulée « Le rôle de la femme dans l'Église ». Donc nous aimerions lire les versets de nouveau, 1 Timothée 2, et à partir du verset 9, et jusqu'au verset 15, je lis. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Alors, je vais faire une petite révision pour ramener tout dans son juste contexte. Dans la première partie, le premier message que j'ai donné sur ce sujet, nous avons en premier examiné le statut de la femme dans l'Antiquité et puis la condition de la femme avant la chute. Et nous avons constaté que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a créés les deux égaux humainement et spirituellement, mais différents dans leur rôle. Dieu a créé l'homme pour mener la femme, et la femme pour être une aide à l'homme. Et avant la notion du péché, il n'y avait rien de dégradant en cela. Ils étaient les deux heureux et satisfaits dans leur rôle respectif. Puis l'homme et la femme ont chuté, ils ont péché, et Dieu les a maudits. Et dans Genèse 3:16, nous avons vu comment la malédiction a renversé les rôles des hommes et des femmes. À partir de ce moment-là, dans l'histoire, la femme veut usurper l'autorité de son mari, et le mari se rebelle à cette usurpation et écrase sa femme, souvent de manière terrible. Le remède, nous avons vu, se trouve dans l'acceptation de la solution de Dieu pour le problème du péché humain, annoncé dans l'Ancien Testament et accompli dans le Nouveau Testament, le salut en Jésus-Christ. Et dans ce salut, l'homme et la femme peuvent comprendre le pourquoi de leur création et retrouver avec bonheur et satisfaction leur rôle respectif épanoui en Christ, bien sûr dans le mariage. Ça, c'était donc la première partie. Ensuite, dans la deuxième partie, le deuxième message, nous avons regardé en détail la première partie de ces versets que j'ai lus ce matin, et nous avons vu la condition de la femme et l'homme, mais disons au niveau de l'Église. Car nous avons vu que le contexte de ces versets, très important, est bien l'Église. L'Église, et spécifiquement, lorsque les hommes et les femmes se réunissent ensemble. Quel est le rôle de chacun dans cette condition spécifique ? Dans le culte, mais aussi dans les réunions adjacentes au culte, des réunions officielles dans l'Église. Et Dieu a prescrit que dans l'Église, le rôle de l'homme et le rôle de la femme soient différents. Et qu'en Christ, l'homme et la femme comprennent quel est leur rôle et qu'ils soient pleinement satisfait. C'est le but décrit dans ce texte. Et nous avons vu donc la semaine dernière que dans ces versets 9 à 15 de 1 Timothée 2, il y a cinq traits qui devraient caractériser les femmes dans l'Église. Premièrement, une apparence modeste. Je veux aussi que les femmes, verset 9, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Nous avons dit que lorsque la femme vient à l'église, quelle que soit la réunion, elle vient au culte ou à ses réunions avec un but, celui d'adorer le Seigneur. Elle se prépare pour ce moment dans son attitude qui se reflétera dans son habillement ainsi que dans son apparence générale. Elle s'habille de manière décente, ordonnée, avec pudeur et modestie. Elle est équilibrée. Elle n'est pas défaite, ni débraillée, ni délaissée au point où cela attire l'attention. Elle ne s'habille pas non plus d'une telle manière si luxueuse et avant-garde, de nouveau, qu'elle attire l'attention. Et nous avons bien sûr vu que ni les bijoux, ni les beaux habits sont interdits. Le problème, c'est lorsqu'une femme utilise ses bijoux et ses habits pour afficher sa richesse et distraire les regards. Deuxième trait d'une femme dans l'Église est une activité exemplaire. Verset 10, « Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Et on a vu que la réelle valeur d'une femme ne se voit pas par le biais de ses vêtements ou de ses bijoux, bien qu'ils ne soient pas interdits, mais au travers de ses bonnes œuvres, de ce qu'elle fait. Troisième trait d'une femme dans l'Église, c'est une écoute attentive. Je ne fais que faire un survol, puisqu'on a déjà vu cela en détail dimanche dernier. Verset 11, « Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. » Et là, nous avons examiné ce verset en détail et conclu que le rôle prescrit de la femme dans l'Église en présence d'hommes est celui d'apprendre, qui n'était pas du tout, notons bien, perçu comme étant dégradant pour la femme de l'époque, mais au contraire encourageant du fait que les femmes n'étaient pas encouragées à l'époque à apprendre. On a vu que les Juifs disaient que les femmes avaient la moitié de la capacité mentale des hommes. Et donc, en fait, le christianisme a grandement haussé le lot de la femme. C'est très important à le souligner. Et quatrièmement, nous avons vu que ce quatrième trait d'une femme dans l'Église devrait être une humilité honorable. Verset 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » De nouveau, Paul ici parle avec une autorité apostolique et il explique que dans le contexte des réunions d'Église et dans la présence d'hommes, que la femme ne doit pas enseigner ni prendre autorité sur l'homme. Et nous avons vu qu'il y a bien deux interdictions ici. Un, celle d'enseigner les hommes. Deux, celle de prendre autorité sur les hommes. Alors, est-ce que la femme ne peut rien faire dans une église? Ah, pas du tout. Nous avons vu que les femmes ont un grand rôle à jouer, dont elles peuvent, selon titre 2, enseigner d'autres femmes. Elles peuvent bien sûr enseigner aussi les enfants. Aussi, nous avons vu que dans un effort d'équipe homme-femme, dans le contexte de conversations privées et en dehors des réunions officielles de l'Église, qu'ils peuvent enseigner un homme, comme Aquila et Priscille l'ont fait envers Apollos. Nous avons vu aussi dans 1 Corinthiens 11 qu'une femme peut prier dans le contexte d'une Église en présence d'hommes, et qu'une femme peut parfaitement avoir un don d'enseignement et même de leadership, mais simplement lors des réunions officielle de l'Église et ne doit pas être utilisée en présence d'hommes. C'est le texte qui le dit de manière très claire. Et c'est là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Et alors j'aimerais donc continuer dans ce cinquième point, au verset 13 et 14, parce que la question se pose, et là on s'est arrêté. Vous étiez tous sur le bout de vos chaises, je voyais dimanche dernier. J'ai posé cette question, mais pourquoi? Pourquoi une femme ne peut-elle pas enseigner un homme dans l'Église ni prendre autorité sur lui? C'est vrai que dans notre monde d'aujourd'hui, on se dit, mais quand même, pourquoi? Alors j'ai posé la question, je suis obligé de répondre. Eh bien, c'est pas moi qui va répondre. C'est la parole de Dieu, au travers des paroles apostoliques de l'apôtre Paul, qui donne deux raisons. Verset 13, « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Alors certaines personnes préconisent que ces versets sont culturels, comme quoi ils furent écrits à l'époque de Paul, mais pas pour nous aujourd'hui. Et que le problème de faux docteurs à Éphèse justifiait ces directives à l'époque, mais qu'elles ne sont pas du tout applicables pour tous les temps, et surtout pour aujourd'hui. Ils disent, non, ces versets sont culturels, on ne peut pas les appliquer aujourd'hui. Alors, la thèse est très intéressante, d'accord. Mais le problème, c'est qu'elle ne colle pas du tout avec le texte. Car les raisons que Paul donne pour ces directives, il en donne deux, ne sont pas des raisons ni culturelles, ni temporelles, mais il donne des raisons créationnelles, morales et historiques. Les raisons qu'il donne précèdent par plusieurs milliers d'années le contexte de Paul à Éphèse. Quelle est la première raison ? Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Alors on a déjà regardé dans le premier message le détail, donc on ne va pas rentrer dans le détail. Mais simplement, il est en train de souligner un fait historique. Vous vous rappelez, Dieu a créé Adam. Il a dit, tiens, Adam est incomplet, il lui faut une aide. Il a pris la côte d'Adam, il a créé une femme après Adam, de Adam, pour Adam. C'est pas compliqué, lisez le texte. D'accord ? Donc, ce que Paul dit est juste, Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Pourquoi est-ce que Dieu l'a fait comme ça ? Ben, vous lui demanderez au ciel, d'accord ? Vous lui demanderez au ciel. Mais c'est ce qu'on apprend. En fait, nous savons pourquoi. Parce que l'homme avait besoin d'une aide. Ça nous met à notre juste place, messieurs. On a besoin d'être aidés. Et donc, cela nous montre tout simplement que l'homme et la femme ont été créés avec des rôles différents. C'est tout. C'est pas compliqué. On a des rôles différents. Et dans Corinthiens 11, de nouveau parlant de la différence des rôles, la même raison est évoquée. D'accord ? Alors ça, c'est la première raison. C'est pas compliqué. Simplement qu'Adam a été créé avant, Ève a été créée pour lui, donc... Adam et Ève ont des rôles différents. Voilà pourquoi une femme ne devrait pas enseigner ni prendre autorité sur un homme dans l'église. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des rôles différents. C'est tout. Ils ont des rôles différents. Deuxième raison, verset 14. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. Alors dans cette deuxième raison, Paul affirme une autre vérité qui cette fois se trouve dans Genèse 3. La chute. De nouveau, on a déjà regardé, donc on ne va pas regarder le détail. Mais il dit tout simplement que c'est la femme qui fut tentée et c'est la femme qui a péché avant l'homme dans le jardin d'Éden. Voilà ce qu'il est en train de dire. Vous vous rappelez comment ça s'est passé ? Le serpent est apparu, il a tenté la femme à manger de la pomme interdite. Elle a dit oui. Et ensuite, elle a donné à son mari. En fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que Ève a outrepassé sa responsabilité lorsqu'elle a, indépendamment de son mari, écouté le serpent. Lorsqu'elle s'est éloignée du regard protecteur d'Adam, elle est devenue vulnérable et a succombé à la tentation. Et de son côté, Adam a suivi Ève dans ce péché lorsqu'il aurait dû en fait la protéger de la tentation. Elle a mené, lui a suivi, ce qui était, vous voyez, un renversement flagrant des rôles prescrits par Dieu, et le résultat pour l'humanité a été dramatique. Alors question, est-ce que Adam est moins coupable qu'Ève ? Elle a péché en premier, est-ce que ça veut dire qu'il est moins coupable ? Eh bien, non. Il n'est pas moins coupable. C'est intéressant que le Nouveau Testament... Mais, en fait, la faute, si je peux le dire ainsi, la faute ultime sur la chute sur Adam. Dans 1 Corinthiens 15, et le verset 21, je vais lire, car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venue la résurrection des morts, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Il dit, voilà, l'humanité est responsable de son péché vis-à-vis d'Adam. Vis-à-vis d'Adam. Alors, Ève a péché en premier, mais c'est Adam ultimement le responsable. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on apprend, écoutez bien, c'est que Ève n'a pas été créée par Dieu de manière à pouvoir assumer le rôle de responsabilité ultime. C'est par son rôle. Elle était plus vulnérable à l'erreur qu'Adam, c'est normal. Elle a été créée pour être son aide. Elle a un rôle différent. 1 Pierre 3, alors ça c'est un autre verset qui fait grincer les dents, mais le texte dit que la femme est plus faible que l'homme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme est faible et que la femme est un peu plus faible. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est moins bien, on a déjà vu ça. Elle est égale à l'homme en personne, elle est égale à l'homme spirituellement, mais ils ont des rôles différents. Dieu a conçu l'homme, selon 1 Corinthiens 11, 3, à être le chef, il a conçu la femme d'être une aide. Et il ne faut tout simplement pas renverser les rôles, ni dans le mariage, ni à l'Église. C'est tout ce qu'il est en train de dire ici. Et voilà les deux raisons données pour lesquelles une femme ne devrait ni enseigner les hommes, ni prendre autorité sur eux dans les réunions d'Église. Le texte est clair. Et ce n'est pas du tout dégradant, comme j'ai déjà souvent dit. Alors la question maintenant se pose. Mais est-ce qu'une femme, alors, doit se considérer un membre de la famille inférieure? Est-ce qu'elle est quelque part seconde classe, surtout à l'Église? Doit-elle vivre toute sa vie dans l'ombre de l'homme et se reléguer à cette place inférieure? C'est comme ça qu'on pourrait le dire, du moins c'est ce que les féministes veulent faire croire aux dames. Ce n'est pas du tout l'optique de Dieu. Et ça, c'est le but du verset 15. Regardons le verset 15. 1 Timothée 2,15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Et ça, c'est le cinquième point. Elle a une fonction privilégiée. Privilégiée. Regardez le verset 15 comme un privilège. C'est très intéressant. Alors, on va l'analyser. Déjà, le mot « néanmoins ». Le mot « néanmoins » est un contraste avec ce qui vient d'être dit. Alors, qu'est-ce qui vient d'être dit? La marque noire qui repose sur la femme d'avoir plongé la race humaine dans le péché est une réalité. Mais, nous dit Paul, il y a un remède qui lui permet de retrouver sa dignité. Elle sera sauvée, nous dit le verset 15, en devenant mère. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est vrai que le verset est difficile. Il y a plusieurs options, d'accord? Et moi, j'aimerais vous donner deux des options, parce que je pense qu'elles se ressemblent beaucoup. La première, c'est ce que j'appelle l'interprétation christologique. Écoutez bien. Je vous résume ce que le verset dirait selon cette interprétation. La femme est sauvée du stigmate négatif d'avoir plongé l'humanité dans le péché par le fait que c'est également par la femme que Christ est venu offrir le salut aux hommes. Cette thèse dirait que le problème, le péché, vient de la femme, on est d'accord, mais la solution au péché, Jésus-Christ, vient également de la femme. Et par ce biais, sa dignité est retrouvée. Dieu a promis à Ève que l'incarnation viendrait par son lignage, Genèse 3,15, et de ce fait, elle est devenue mère du Messie. La postérité d'Ève écraserait le serpent, et cette postérité, c'est donc Christ qui écraserait Satan. Donc l'enfantement du verset 15 serait donc pas une référence à l'enfantement en général, mais à Christ qui devait être enfanté du lignage de la femme. Donc ça, c'est la première possible interprétation, d'accord? L'interprétation christologique. La deuxième, c'est ce que j'appelle l'interprétation biologique, et je crois que je la préfère un peu, d'accord? Je crois que les deux se tiennent, mais je crois que je la préfère un peu. Voici ce qu'elle dit. Verset 15. « La femme est sauvée ou préservée de l'empreinte négative d'avoir plongé l'humanité dans le péché » par le privilège de pouvoir mettre des enfants au monde et de les élever dans le Seigneur afin de produire une génération pieuse. Le mot « sauvée », elle sera néanmoins sauvée. Qu'est-ce qu'il veut dire ce petit mot « sauvée » ? Alors, il pourrait dire « sauvée » comme le salut en Jésus-Christ. Mais je vous pose la question. Est-ce qu'une femme est sauvée spirituellement en ayant des enfants? Bien sûr que non, parce qu'on est sauvé par la grâce, et pas par une œuvre quelconque. Donc ça, on peut de toute façon éliminer. Mais le mot « sauver » ici en grec veut aussi dire « secourir, libérer, délivrer ». Simplement, disons, si je suis secouru d'un orage, disons, comme dans Matthieu 8, 25, ce serait un mot simplement humain pour dire « j'étais sauvé d'une catastrophe » ou quelque chose comme ça. Donc, est-ce que Paul, ici, fait une référence à Ève ou Marie, comme cette première interprétation le suggérait? Alors, il n'y aurait rien dans le texte qui implique une de ces deux femmes. En plus, le verbe est au futur par rapport au temps de l'écriture de l'Épître. Mais Christ est né avant cette date. Donc, je sais que c'est un peu compliqué. Écoutez maintenant. Ce que Paul semble dire, c'est que même s'il est vrai que la femme a été responsable d'avoir plongé l'humanité dans le péché, elle peut être préservée de l'empreinte négative de cette réalité dans sa vie par le biais de la maternité. C'est par le privilège qu'elle a de pouvoir mettre des enfants au monde et de pouvoir les élever dans la foi qu'elle se dégage du stigmate, de la marque négative, de la cicatrice d'avoir amené la race humaine dans le péché. Donc, ses enfants, verset 15, sa modestie, sa foi, son amour, sa sainteté, tout ce qui fait d'une femme, femme, dans toute sa beauté, dans sa splendeur dans le Seigneur, une femme de Dieu, ces traits-là, mes amis, ces traits-là deviennent son plus grand honneur et effacent en quelque sorte son stigmate du passé. Voyez-vous, ce verset est là pour honorer les femmes qui pourraient se sentir frustrées de ce qui vient d'être dit juste avant. Voyez-vous, ça j'y pense souvent, ce verset nous souligne le fait que la femme est dotée d'un privilège qu'aucun homme a. Écoutez bien ce que je vais dire. Les femmes ont un privilège qu'aucun homme a, celui d'enfanter. Quand même remarquable. C'est remarquable la différence de rôle que nous avons, biologiquement. Moi, je ne peux pas enfanter un enfant. C'est impossible. Je suis homme. Et de la même manière qu'un homme n'a pas été créé pour enfanter des enfants, et qu'il ne devrait pas se sentir frustré par ce manque de privilège, la femme n'a pas été créée pour enseigner dans l'Église, ni pour exercer l'autorité sur l'homme. Et donc, elle ne devrait pas être frustrée par cela, mais se sentir honorée par le rôle merveilleux que Dieu lui a donné, qui est simplement un rôle différent que celui des hommes. Donc, que la femme se donne à ce pourquoi elle a été créée, d'aider son mari, enfanter des enfants, les élever dans le Seigneur et ainsi cultiver en eux une génération pieuse qui aime le Seigneur. Alors vous dites, oui, mais John, mais moi je ne suis pas marié, je suis célibataire. Bonne question. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, ce n'est pas un problème. Car dans 1 Corinthiens 7, Paul pensait que les célibataires avaient de plus grandes capacités à servir le Seigneur du fait qu'ils ont plus de temps et qu'ils sont moins distraits. Donc ce n'est pas une chose négative. D'être célibataire, c'est un fait. Et donc, une femme célibataire est tout aussi honorée qu'une femme mariée dans ce texte. Et donc, l'homme est appelé à faire quoi? Ben, lui est appelé à s'occuper des choses pour lesquelles lui a été conçu. De mener sa femme dans le contexte d'un mariage, mais aussi de mener l'Église dans un contexte d'Église. Alors, devenons pratiques maintenant, d'accord? Ramenons tout ça à notre contexte d'aujourd'hui. Car la question se pose, pratiquement, comment les choses vont-elles s'appliquer dans notre Église? Vous aviez cette question, j'en suis sûr. D'accord? Parce que moi aussi je l'avais. Comment décider quel service est acceptable ou non pour une femme de faire dans l'Église? Très bonne question. Alors comment on aborde? Alors, on pourrait faire une liste de tous les ministères et tous les rôles possibles et imaginables à faire dans une église locale et définir, point par point, ce que nous pensons qu'une femme devrait pouvoir faire et pas faire. et ce qu'un homme devrait pouvoir faire et pas faire. En fait, c'est pas du tout quelque chose d'hypothétique, parce qu'il y a un homme qui s'appelle Wayne Grudem qui a fait exactement ça dans un article très intéressant que les anciens ont lu de cette église. Et l'article est intitulé « Mais que devraient faire les femmes dans l'église ?» Lui a fait une liste exhaustive de tous les ministères imaginables dans une église et tente de savoir où tirer la barre. De dire « Tous ces ministères, c'est OK. » Et là, par contre, là, c'est plus OK selon le texte biblique pour qu'une femme puisse servir dans telle ou telle capacité. Et lui, donc, dans cet article, tire clairement la barre où lui pense qu'elle devrait être tirée. Mais sa conclusion est intéressante. Il dit et il conclut que chaque église, à cause de son histoire, de ses antécédents et de ses spécificités particulières, va probablement tirer la barre un peu différemment l'une de l'autre. Alors, tout le monde analyse le texte, mais où est-ce qu'on tire la barre pratiquement? Et je pense qu'il a raison. Je pense que chaque église va probablement la tirer un tout petit peu de manière différente. Et de ce fait, c'est là où je pense que les anciens dans une église ont un rôle important à jouer. À eux, l'ultime responsabilité devant Dieu de mettre ces directives en pratique dans les divers ministères de l'église. Et ça, quelque part, c'est le privilège des membres d'une église qui finalement font confiance, quelque part, à leurs responsables qui, eux, sont responsables devant Dieu. C'est pour ça qu'il est très important de mettre des responsables en place qui tiennent la route selon le Seigneur, qui tiennent la route bibliquement. Très important. Donc, la pression est maintenant sur les anciens et l'église peut se reposer dans cela. Parce que, ultimement, ce sont les anciens qui sont redevables à Dieu par rapport aux choix dans ce sujet et d'autres qu'ils peuvent faire. Et sachez que les anciens veulent toujours quoi? Ils veulent plaire au Seigneur. Ben, j'espère. Moi, j'ai qu'un désir dans ma vie, c'est de plaire au Seigneur. Pas aux hommes, au Seigneur. Et j'essaye de tout mon cœur de comprendre et avoir le cœur de Dieu dans ces choses. Alors aujourd'hui, nous sommes deux anciens, José et moi. Et sachez que donc cette semaine, on s'est rencontrés deux fois en fait. Et on a parlé la première fois 1h30. Hier, encore, on a parlé pas mal de temps sur ces sujets pour essayer de savoir, tiens, comment on applique dans notre église ces choses. Alors, on a globalement trouvé 4 grands principes, d'accord? Donc, j'aimerais vous les donner. Là, on devient vraiment pratique, d'accord? 4 grands principes pour nous sur comment appliquer ces choses sur le rôle de la femme dans notre église. Alors, je vous les donne, d'accord? Numéro 1. Nous pensons que lorsque l'Église se réunit en réunion officielle, où les hommes et les femmes sont présents ensemble, que ce soit lors du culte, les cellules de maison, les cours de formation du jeudi soir, les réunions de prière ou autres réunions officielles, que les hommes devraient prendre le leadership et à eux d'enseigner et d'être dotés de l'autorité. 2. Nous pensons que les femmes peuvent également enseigner, mais qu'ils ne doivent pas enseigner les hommes dans le contexte de réunion officielle de l'Église. Elles peuvent cependant enseigner d'autres femmes, les enfants, les jeunes de l'Église. Elles peuvent également, hors réunion d'Église, enseigner les hommes, évangéliser, discuter théologie avec eux sans aucun problème, comme l'ont fait Aquila et Priscille. Elles peuvent également prier en présence d'hommes, selon notre compréhension de 1 Corinthiens 11. 3. Certaines des réunions de l'Église ont un format interactif, format dialogue, hein, on discute. Nous pensons que dans ces réunions, comme par exemple dans les cellules de maison ou dans les cours de formation du jeudi soir où il y a beaucoup de dialogue, premièrement que l'enseignant est attitré. Deuxièmement, l'enseignement est attitré aussi, déjà préparé. Et troisièmement, que l'autorité est attitrée par l'enseignant qui amène l'enseignement. De ce fait, un dialogue reste un dialogue. Lorsqu'une personne, homme ou femme, s'exprime dans une telle réunion conçue à cet effet, elle n'est pas perçue comme étant en train d'enseigner, ni perçue comme ayant une quelconque autorité. Elle donne une opinion qui est corrigible par l'enseignant. C'est bien lui qui a le dernier mot. Donc, nous pensons que ce type d'interaction est légitime. Alors, comment interpréter 1 Corinthiens 14, 34, je vous lis, deux versets, que la femme se taise dans les assemblées, qu'elle ne leur ait pas permise d'y parler, mais qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles s'interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Alors, comment alors interpréter ces deux versets? Eh bien, le contexte est important. Le contexte, c'est la prophétie et les langues lors du culte public. Très spécifique. Il semble que certaines femmes à Corinthe prenaient la parole de manière inappropriée lors des réunions publiques et qu'elles perturbaient le culte par leurs manifestations de langue, de prophétie et de questions inappropriées. Elles ne savaient pas se tenir tranquilles et perturbaient le culte par leurs interruptions chaotiques. Elles interrompaient les messages donnés. Paul dit que cela n'est pas bien. Il est mieux d'attendre à la fin du message et si question il y a, les poser à leur mari à la maison. L'idée est quoi? Le principe est ne pas déranger de manière inappropriée les réunions publiques. Nous ne pensons pas que cela annule la possibilité d'interactivité dans une cellule de maison pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Paul donc donne et ressouligne le même principe général qu'il avait déjà souligné dans 1 Timothée 2, aux hommes de mener les réunions publiques. Et ceci mène au quatrième principe pratique pour nous dans l'Église. Nous pensons que cet enseignement a une autre application importante. Alors écoutez très bien, que tout le monde écoute là, super important, d'accord? Écoutez. Si les femmes ne devraient pas enseigner ni prendre autorité sur les hommes dans l'Église, virgule, alors qui devrait enseigner et prendre autorité? Qui? Les hommes. Les hommes. Messieurs, écoutez-moi bien. C'est nous, en fin de compte, qui sommes visés dans ce texte. Nous sommes visés. Cette semaine, une femme dans l'église m'a dit, parce qu'on discutait de ces choses, elle m'a dit ceci, écoutez bien. John, nous n'attendons qu'une chose, que les hommes de l'église se lèvent pour nous mener. J'y croyais pas mes oreilles, j'avais les frissons. Je lui ai dit, mais c'est de la musique à mes oreilles ce que j'entends, c'est génial. Vous savez c'est à quoi ça m'a fait penser? Les dessins animés Walt Disney. Parce que les dessins animés Walt Disney basent beaucoup de leur histoire sur ce point. Nous sommes des princesses en détresse. Et nous attendons que notre prince charmant vienne nous secourir. Je suis là, ma belle, et je vais venir te secourir. Et je viens sur mon cheval blanc avec mon épée. Wow. Et ils s'embrassent, et c'est la fin de l'histoire. Bienvenue à Walt Disney. Mes amis, Walt Disney sait très bien que la nature de l'homme est biblique, en fait. Ne croyez pas les féministes. La plupart des femmes, j'en suis convaincu, attendent leur prince charmant. Elles veulent être menées par un tel prince charmant qui aime profondément Jésus-Christ. Voilà ce que les femmes veulent aujourd'hui. Des hommes de Dieu, dans un mariage, mais dans l'église aussi. Des hommes qui sont là, qui disent « Oui, je suis présent. Oui, je vais aider. Oui, je vais être théologiquement profond. Oui, je vais tout faire pour t'honorer et pour faire ce que Dieu me demande de faire. » Les femmes, j'en suis convaincu, n'attendent que cela. Messieurs, à nous de les mener. Nous devrions être présents aux réunions d'église. Alors, on ne va pas tous être présents à toutes les réunions, je suis d'accord. Mais sommes-nous présents? Sommes-nous dans cette église? Et sommes-nous prêts, messieurs, à être utilisés dans ces diverses réunions d'église pour donner la lignée? C'est exactement ce que dit le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est une direction, c'est un leadership masculin. Voilà ce que Dieu veut pour l'Église. Alors, vous savez, c'est tellement anticulturel. Oh là là. C'est tellement anticulturel. Mais moi, j'ai pensé à un truc cette semaine. Je me suis dit, John, si nous interprétons de manière correcte les Écritures sur ce point, si c'est juste, ce que je vous ai appris depuis 3 semaines, j'espère, hein, j'espère que c'est juste, je crois que c'est juste, vraiment, je crois que c'est juste. Si c'est vraiment la volonté de Dieu, attendez voir. Si on est les seuls à le faire, et quoi ? Dieu va nous bénir. Tenez-vous bien. Dieu va nous bénir parce que Dieu bénit toujours l'obéissance à sa parole. Amen. Même si le monde autour de nous nous dit qu'on est fou, ben soyons fous. Faisons ce que Dieu dit. Voilà ce que je pense que nous devrions faire. Alors, je parlais avec José, j'ai dit, je sais ce qu'on devrait faire. Alors là, je vous lance une idée farfelue, hein, quand j'en ai beaucoup. Tu sais, on devrait une fois avant l'été faire une réunion d'hommes. D'accord ? Faire une réunion. Que les hommes sont invités. Pour 2 choses. 1, il faudrait qu'on discute un petit peu de ça. Il faudrait qu'on se dise, écoutez, messieurs, voilà, on en est où ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Comment on va appliquer vis-à-vis de nous ces choses ? Alors, les femmes ont déjà 2 réunions pour femmes, hein, la semaine. Donc, elles discutent déjà de leur côté de ces choses. Peut-être c'est à nous aussi de discuter de ces choses de notre côté. Et deuxièmement, je lui dis, tu sais, moi, ça me dirait d'aller faire une sorte de partie paintball. Vous connaissez le paintball ? Qui connaît le paintball ? Alors, c'est un jeu où les hommes, ils aiment bien, ils vont se tirer dessus, en fait, avec des carabines, d'accord ? Alors, c'est tout bête, mais c'est super mec, quoi. C'est super mec, c'est très homme, très viril. Et je me suis dit, mais ça pourrait être vraiment sympa d'organiser un samedi paintball, hein, suivi d'une discussion théologique. Je suis sûr qu'après une partie paintball, on va parler encore mieux. D'accord ? Alors, c'est bête, mais pourquoi pas, finalement ? Pourquoi pas ? Moi, je pense qu'il y a un monstre défi pour nous, ici. Un monstre défi. Écoutez, je vais encore prendre quelques minutes. J'ai quelques petites choses encore à dire, parce que je vais encore répondre une ou deux questions importantes, d'accord ? Parce qu'il y a quelques objections par rapport à tout cet enseignement qui pourraient encore surgir, et j'aimerais vous montrer comment répondre. Alors, premièrement, certains pourraient répondre, « Ouais, mais est-ce que Galates 3:25 n'est pas un verset qui préconise l'égalitarisme ?» Galates 3:25, c'est un verset très populaire. Pour certains qui n'adoptent pas notre perception des choses, ils lisent, voilà, « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Alors, ils disent, « Ben voilà, regarde, il n'y a ni homme, ni femme, on est tous un en Jésus-Christ. » Alors, comment tu peux préconiser qu'il y a des rôles différents ? Contexte. Contexte. Reculez. Verset 26. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Il est en train de dire quoi ? Que vis-à-vis de notre salut spirituellement devant Jésus-Christ, nous sommes tous égaux. Mais ça n'a rien à voir avec nos rôles. Rien à voir avec nos rôles. Donc ça, c'est un verset pris totalement hors contexte pour préconiser quelque chose que je ne pense pas est juste. Deuxième objection, si 1 Timothée 2 interdit vraiment l'enseignement et l'autorité des femmes sur les hommes dans l'Église, alors comment comprendre les femmes dans la Bible qui avaient des rôles de leadership et qu'on appelait prophétesses ? Vous vous rappelez, hein ? Il y a plusieurs mentions de prophétesses dans la Bible. En fait, dans l'Ancien Testament, 5 femmes ont le titre de prophétesse. Alors, sachant déjà que le mot prophète veut simplement dire quelqu'un qui expose la parole de Dieu. Il y a parfois un élément futuriste, parfois pas. Pas toujours. Donc, quelqu'un qui expose la parole de Dieu, prophétie, part de la part de Dieu. Alors souvent le débat repose sur la prophétesse qui est la plus connue dans la Bible, c'est Déborah, dans Juges 4. Alors on va y aller juste 2 minutes, je vais vous montrer, c'est quand même hyper intéressant, l'histoire de Déborah. Alors Déborah, nous dit le verset 4 de Juges 4, est clairement prophétesse. Il est dit que dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. C'est clair. Une femme était prophétesse et une femme était juge. Alors, le professeur Saucy dit ceci. Écoutez, c'est très intéressant. Il peut arriver que des circonstances inhabituelles nous obligent à mettre de côté le modèle normal de l'ordre divin. Par exemple, en l'absence du mari ou du père, la femme de la maison doit servir de chef de famille. C'est vrai. C'est pas l'idéal. Mais c'est ce qui doit être fait. Il semble donc que les circonstances particulières puissent empêcher que le leadership soit assumé par un homme et que Dieu serve alors d'une femme pour exécuter ses desseins. Tel en était le cas avec Déborah. C'est intéressant. Au verset 6 de Juges 4, nous lisons ceci. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Naphtali, et lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël ? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Naphtali et des enfants de Zébulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kishon, Sisera, chef de l'armée Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. » Alors, quel était l'ordre de l'Éternel vis-à-vis de cette bataille ? Qui devait y aller ? Barak, un homme. Dieu a demandé à Barak d'y aller. Mais regardez la réponse de Barak au verset 8. Barak lui dit, « Si tu viens avec moi, Déborah, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » C'est quoi comme réponse ? C'est quoi comme réponse ? Ouais, écoute, tu sais, moi j'ai peur, hein. Déborah, viens avec moi. Mais ce n'était pas l'ordre prescrit de Dieu. J'irai que si tu viens avec moi. Il refuse d'y aller sans elle. Alors, verset 9, regardez ce qu'elle répond. Elle répondit, « J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Et Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kedesh. C'est ce qu'elle répond. Elle dit, « Tu sais, Barak, si je viens avec toi, tu ne recevras pas de gloire, parce qu'il sera dit que l'ennemi a été tué par une femme. Et ça, ce n'est pas le rôle d'une femme. Ce n'est pas mon rôle, Barak. » Elle le comprenait parfaitement bien que ce n'était pas son rôle. Mais voilà, il y a une situation imparfaite. L'homme ne voulait pas, donc la femme a pris sa place. Et Dieu l'a utilisé. Bien sûr qu'il l'a utilisé. Donc nous concluons, certes, elle était juge et prophétesse, mais cela n'aurait pas dû avoir lieu. Pourtant, Dieu se glorifie dans les situations imparfaites. Dans Exode 15-20, il est sujet de Marie. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prie la main, en main un tambourin, enfin aussi prophétesse, une prophétie lui est attribuée. N'oublions pas que lorsqu'elle a contesté l'autorité de son frère, elle l'a payé cher en étant frappée de Dieu par la lèpre. Hulda, autre prophétesse, dans 2 Rois 22-14, comme pour Marie, Hulda n'a rendu qu'une prophétie, et la femme d'Ésaïe, dans Ésaïe 8-3, ça c'était nouveau, je ne savais pas, aucune prophétie dans la Bible ne lui est attribuée. Elle doit son titre de prophétesse au seul fait d'avoir donné naissance à un enfant dont le nom possède une signification prophétique. Il y a encore Noadia dans Néhémie 6,14, mais elle, c'était une fausse prophétesse puisque Néhémie la cite parmi ses ennemis dans Néhémie 6,14. Alors, 5 prophétesses avec des contextes très intéressants. Au niveau de l'Ancien Testament, on n'a quand même pas l'impression que le rôle de prophétesse était une fonction très répandue, ni une fonction dotée de continuité comme il était le cas pour les prophètes hommes. On a vraiment l'impression, en comparant les prophétesses et les prophètes, que les prophétesses font figure d'exception dans un entourage très masculin de prophètes. Dans le Nouveau Testament, c'est un peu pareil. Dans Luc 1,46, Marie a prié et loué le Seigneur et nous avons le cantique de Marie. Dans Luc 2, 36 à 39, il y a Anne. Anne exposait la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Était-elle une source de révélation ? Nous ne le savons pas. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Il y avait ensuite les filles de Philippe qui prophétisaient dans Actes 21, 9. C'est intéressant que nous ne savons ni le message, ni les circonstances de leur prophétie, et de conclure qu'elles co-prophétisaient lors de réunions d'église en présence d'hommes, contexte nouveau testamentaire, est tout à fait subjectif, car nous ne savons tout simplement pas. Jézabel, finalement, dans Apocalypse 2.20, eh bien, c'est une femme qui se disait être prophétesse. Conclusion, de nouveau, comme pour les prophétesses dans l'Ancien Testament, nous avons l'impression que les prophétesses mentionnées dans le Nouveau Testament semblent avoir été quelque chose d'exceptionnel et pas quelque chose de normatif. Leur ministère ne semble pas avoir été continu, long terme, comme il est le cas pour les prophètes Ancien Testament. Écoutez très bien ce que je vais dire. Réveillez-vous, d'accord ? Je sais que c'est long, mais on arrête là bientôt. D'accord ? Écoutez. Réfléchissez à ceci un instant. Tous les grands prophètes de l'Ancien Testament étaient des hommes. Aucune femme n'a été appelée à exercer un ministère prophétique continu dans l'Ancien Testament. Tous les petits prophètes de l'Ancien Testament étaient des hommes. Tous les auteurs inspirés de l'Ancien Testament étaient des hommes. Aucune femme n'a jamais été sacrificateur dans l'Ancien Testament. Il n'y a jamais eu de reine, ni sur Israël, ni sur Juda, avec une exception, Athalie, qui était reine, mais elle a usurpé le pouvoir. Tous les apôtres de Jésus-Christ étaient des hommes. Jésus n'a jamais exalté les femmes à une position de leadership au-dessus des hommes. Tous les auteurs inspirés du Nouveau Testament étaient des hommes. Il n'y a pas un sermon ou un enseignement dans le Nouveau Testament donné par une femme. Et le Nouveau Testament ne fait aucune mention d'une femme pasteur, enseignant, évangéliste, ni ancien. Conclusion. Je me dis que si Dieu avait voulu des femmes dans le rôle d'enseignante, n'aurait-il pas au moins introduit une femme dans cette liste impressionnante de personnes ? Est-ce un hasard ou un choix précis de la part de Dieu ? Moi, je pense qu'une lecture simple de 1 Timothée 2, 9 à 15, que nous avons vu en détail, nous montre que Dieu, tout simplement, a conçu les choses pour que les hommes et les femmes, égaux devant Dieu en toutes choses, aient des rôles différents, que ce soit au niveau familial ou que ce soit dans l'Église. Et en ça, il n'y a rien, mais rien de déshonorant, au contraire, de savoir que nous avons été créés pour un rôle spécifique est une joie, est une bénédiction de pouvoir agir à l'intérieur du rôle pour lequel Dieu nous a créés. Et ça, mes amis, termine cette série sur le rôle de la femme dans l'Église. Est-ce que je peux entendre un amen ? Écoutez, ça a été quelque chose de passionnant pour moi, je vous dis franchement. Dans mes études, ça a été 3 semaines où j'ai beaucoup réfléchi et j'ai vraiment demandé au Seigneur de m'aider à comprendre, même si ce n'était pas populaire. Alors, si vous voulez encore dialoguer, hein, j'ai encore beaucoup de notes, des choses, j'ai beaucoup de choses que je n'ai pas dites, bien sûr. Mais si vous voulez encore parler de ces choses avec grand plaisir, venez nous parler, nous voir, et on fera tout pour que les choses soient vraiment claires dans nos esprits. D'accord ? On va prier. Ah, Seigneur, merci vraiment de tout cœur pour la parole. Merci de tout cœur, Seigneur. Seigneur, bénis ta parole, bénis cette Église. Aide-nous à faire les choses justes, Seigneur, s'il te plaît, je te le supplie. Arrête-nous s'il y a quelque chose d'erroné, Seigneur, dans lequel nous marchons, Seigneur, et confirme si nous sommes sur la juste voie. À toi toute la gloire. Et merci, Seigneur, pour les femmes dans cette Église. Bénis-les, Seigneur, bénis-les. Et merci pour les hommes dans cette Église. Bénis-les aussi. À toi la gloire. Amen.